J'ai la tâche difficile donc de faire respecter le temps de parole ce matin de façon à permettre réellement donc des dialogues. Vous avez vu que nous avons deux intervenants. Ceux qui viennent de plus loin ont droit à une demi-heure, hein, donc les autres ils en ont un peu moins, ils ont 20 minutes. Dominique Pestre et puis Bruno Leclerc, et puis la discussion aura lieu juste après les deux premiers intervenants, hein, il y aura une discussion d'environ un quart d'heure. Alors je présente Dominique Pestre, qu'on a le plaisir d'accueillir ici, et qui va présenter donc une intervention intitulée « Pourquoi toutes ces évaluations de la recherche publique aujourd'hui, une mise en perspective historique ?» Dominique Pestre est vraiment aujourd'hui en langue française et aussi en langue anglaise un important, très important historien des techniques et des rapports entre technique, savoir et société. Il y aura d'ailleurs bientôt un volumineux livre en trois gros tomes, je crois, qui va paraître au seuil sur toute l'histoire des techniques. Est-ce que c'est au XXe siècle ou...
Depuis la Renaissance, carrément.
Depuis la Renaissance. Et donc, Dominique Pestre a une très grande expérience d'enseignement, de recherche, de dialogue. Il a été dans des universités prestigieuses, professeur affûté, comme à Berkeley, à Caltech, et j'aime bien ajouter aussi à l'ULB. je vais lui céder la parole, mais je vais peut-être directement aussi présenter Bruno Leclerc, de façon à ne pas devoir interrompre. Et donc Bruno Leclerc, qui est un des membres du comité d'organisation, enseigne les théories de la connaissance en philosophie contemporaine à l'Université de Liège. Il a été président de la Société belge de philosophie, entre autres, président du département de philosophie de son université, et il a eu l'expérience d'une toute une entreprise d'évaluation qu'il a vécue en tant que partenaire, ce qui l'a amené à réfléchir en tant qu'acteur à cela, et puis à prolonger sa réflexion en tant que, on pourrait dire, théoricien. Il a publié là-dessus, et donc lui va compléter avec une série de concepts pertinents pour comprendre les récentes évolutions de l'évaluation de la recherche. Voilà, je cède la parole.
Bien, j'ai un peu changé le titre, comme toujours. On y réfléchit d'abord, puis ensuite on fait autre chose. Comme Edwin m'avait demandé de proposer quelque chose. Ah tiens, donne-moi ta montre, parce que sinon je vais me faire assassiner. Je sais, il nous l'a rappelé déjà hier soir, ce matin et tout, manifestement. Non, je te la rendrai, promis. Bien, donc d'un peu, d'une certaine façon, cadrer le sujet. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de l'évaluation, moi, stricto sensu, mais je vais parler de formes similaires, plus larges, dans lesquelles les évaluations s'insèrent, et les analyser à ma façon. Donc vous indiquer des manières de les prendre, d'avoir une perception de l'ensemble beaucoup plus vaste dans laquelle l'évaluation a émergé. D'accord ? Ensuite, mes collègues parleront de l'évaluation. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut probablement dire... on va courir doucement. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a toujours existé des formes de gouvernement. L'évaluation telle qu'elle a été inventée, telle qu'elle est utilisée, est une forme de gouvernement des individus, des institutions, etc. C'est pas neuf. On ne connaît pas de société où il n'y aurait pas de forme de gouvernement. Hein. Les formes hiérarchiques existent. Et si on veut regarder les formes qu'on a aujourd'hui dans lesquelles s'insère l'évaluation, on va les dénommer... je ne sais pas, libéral, si vous voulez. Je ne prends pas ça de façon idéologique, je le prends en termes descriptifs, c'est une manière particulière de gouverner. Bien, donc on a des généalogies que vous connaissez. Donc au cœur de cette gouvernementalité, vous l'appelez comme vous voulez, ce n'est pas très grave. Là, je prends l'expression de Foucault et je la garde telle qu'elle. Je ne veux pas la charger de sens politique fort. Le cœur de cette forme de gouvernement... c'est de réinstaller l'individu qui est chargé d'être gouverné et le placer en charge de lui-même. Il doit être... On doit, en quelque sorte, c'est ça l'idée, réinitialiser l'individu pour qu'il apprenne à se gérer lui-même, et on doit mettre autour de lui en place des dispositifs qui lui permettent de se gérer mieux et de s'améliorer. Hein, c'est une première manière de le décrire. Alors, en gros, je vais le décrire de différentes façons. On pourrait dire, d'abord, il faut fixer des objectifs. Et toujours dans cette gouvernementalité libérale, ce sont des objectifs de bon sens et incontestables. Est-ce que vous êtes contre l'excellence à l'université ? Non, évidemment. Vous n'êtes pas contre l'excellence. Est-ce que vous êtes contre le devoir de s'améliorer? Non. Est-ce que vous êtes contre le fait que la médecine doit reposer sur des preuves? Non. Donc ces critères sont des critères de bon sens. À partir de là, l'idée, c'est d'essayer de définir une métrique et de faire que les individus se jaugent vis-à-vis de cette métrique et qu'en conséquence de quoi, on puisse repérer les meilleurs et en conséquence définir les meilleures pratiques que les individus sont donc invités à s'approprier. Là aussi, c'est extrêmement de bon sens. Vous êtes, ça paraît, d'un pragmatisme et d'une très grande simplicité. Donc, en gros, l'idée clé, c'est qu'il faut inventer un modus operandi qui soit pragmatique. Vous verrez, j'y reviendrai tout à l'heure, on passe, par contre, ça, c'est un élément très intéressant. Il n'est pas question d'entrer dans des débats préliminaires très longs sur les objectifs qu'on vise. Ce qui est important, ce n'est pas le concept d'idées et de débat d'idées, mais c'est le concept d'information dont vous avez besoin pour progresser, ce qui est une notion assez différente, on pourra y revenir dans la discussion, c'est de vous donner l'information objective dont vous avez besoin pour vous mesurer aux autres et devenir meilleur. Il ne s'agit pas de débattre sur les objectifs, en quelque sorte. Bien, si je le dis encore autrement, je vais le dire de trois façons, puis je vais donner un exemple ensuite. Il faut d'abord donner donc un principe supérieur indiscutable, se prendre en main, se faire meilleur, ce qui signifie en pratique concrètement dans nos sociétés, parce que ça a un sens précis, être plus actif, plus entreprenant, plus efficace, plus efficient, etc. Hein, tout un vocabulaire qui vient du New Public Management. Ensuite, ne pas perdre son temps avec le débat d'idées, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire se méfier des intellectuels critiques. Ça, il ne s'agit pas de faire ça du tout. La perte du bon sens qui est due aux intellectuels est un problème en soi. Et je voulais, je renvoie à deux petites choses. Par exemple, un de nos très chers amis, Bruno Latour, si vous le lisez, vous verrez qu'il a des chapitres extrêmement violents contre les intellectuels critiques. Et je pense qu'on pourra en discuter. Ce n'est pas un point important pour moi ici. Et puis, je viens de terminer un travail sur la langue de la Banque mondiale, la sémantique et la grammaire de la Banque mondiale. Et la chose extrêmement intéressante, si vous voulez, c'est que si vous cherchez dans l'ensemble des rapports de la Banque mondiale, des rapports annuels, ce qui représente des dizaines de milliers de pages, le mot disagree, disagreement, eh bien, alors je ne sais plus lequel, on ne le trouve jamais, et l'autre, on le trouve trois fois sur 70 ans et 30 000 pages. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est au contraire dans le monde, nous sommes tous ensemble en train de nous améliorer, nous ne sommes pas, il n'y a pas de notion de conflit, de désaccord qu'il faudrait régler, etc. Hein, bon, c'était simplement un tout petit point. Alors, on dit dans ce monde qu'il faut créer une métrique et que cette métrique, elle est provisoire, elle est transparente. Puis elle est provisoire parce qu'on va toujours l'améliorer elle-même, bien sûr. Et elle est transparente dans la mesure où ce sont des indicateurs que tout le monde peut voir. On peut revenir sur ce vocabulaire, j'y reviendrai dans la seconde partie. Et disons, on va le dire, ce que je vais regarder moi un petit peu, pour se mesurer et s'évaluer, il faut ce qui s'appelle traditionnellement un benchmark. Et je vais donc regarder ça. Donc, parce que le paradoxe, évidemment, de ce libéralisme très fort, c'est qu'il doit être extrêmement interventionniste pour qu'ensuite les individus puissent être libres de leur choix en connaissance de cause. Mais pour ce faire, il faut fabriquer au monde, tout autour, un monde très instrumenté. C'est-à-dire, il faut être extrêmement fabricant de choses pour qu'ensuite on puisse prétendre que ces individus seront en liberté de choix puisqu'ils auront l'information. Mais l'information n'est pas gratuite, il faut la construire. Bon, alors comment fabriquer la métrique? Ça, on va reviendrir. Alors, dans les discours, il y a plusieurs options. Il y a l'idée de la société civile. J'y reviendrai tout à l'heure. Il faudrait que la société civile fabrique, ou que la société, ou les acteurs, enfin, il y a des mots divers, et en particulier les organisations internationales. On en verra des exemples tout à l'heure. C'est à eux d'essayer de proposer tous les critères qu'ils voudraient. D'accord ? Alors, face à ces divers critères, sous ces divers critères qui se mettent à émerger, un plus petit dénominateur commun est censé devoir émerger. Il émerge du marché de ces idées, en quelque sorte. L'expression du marché des idées, c'est intéressant aussi comme expression. Elle est extrêmement courante depuis les années 80. Avant, il y avait d'autres marchés, mais maintenant, il y a un marché des idées. Nous ne sommes plus en train de débattre, nous sommes dans un marché des idées. Le vocabulaire est là aussi intéressant. Je voulais donner un certain nombre d'exemples, mais je pense que je vais directement avancer sur un exemple concret. Ouais, on va commencer. Alors, je vais prendre un exemple, parce que, et je ne le prends pas dans notre évaluation à nous, c'est un exemple historique, donc il a été assez important dans le cas français, c'est le benchmarking des hôpitaux en France. Donc l'affaire commence en 1997 et ça commence par un journal qui est Science et Avenir. Donc c'est intéressant, ce n'est pas le Figaro, c'est un journal de popularisation scientifique. Il y a la recherche, il y a Science et Vie, il y a Science et Avenir. Hein. Ce sont les trois, vous les connaissez, j'imagine. Et c'est Science et Avenir qui lance cette affaire. Et c'est un des premiers palmarès qui va être, qu'on appelle ça palmarès, hein, ou appelez-le comme vous voulez, je ne sais pas, qui va être créé. Donc, et qui porte comme titre la liste noire des hôpitaux. Donc on rentre déjà, à la fois on objectifie, on fabrique un palmarès, mais en même temps on voit bien que c'est une stigmatisation. Il faut connaître les mauvais. Connaître les mauvais, c'est aussi connaître les bons. Et dans l'évaluation, il s'agit toujours un peu de ça quand même. Hein. On est bien d'accord, il s'agit bien de faire un ordre. Alors, la première publication en 1997 est extrêmement rudimentaire. Elle va susciter, évidemment, comme elle est neuve en plus, un flot de critiques à tous les points de vue. C'est-à-dire, les données ne sont pas fiables, les critères choisis, pourquoi vous avez pris cela plus que d'autres, et chacun y va, depuis l'infirmière, le médecin, le chef d'hôpital, le gestionnaire, qui chacun dit, mais écoutez, les critères que vous avez pris là, ce n'est pas du tout ça un hôpital, ce n'est pas ça qui fait un bon hôpital, comment vous jugez de la qualité des soins, etc. Donc, très grande polémique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, parce que, en réponse aux critiques, et car les palmarès ont fait vendre, et Science et Avenir est très très content de ce numéro qui se vend, la polémique est toujours un facteur intéressant de vendre, Science et Avenir décident de justifier ce qu'ils ont fait, de reconnaître ce qui est faible, de dire qu'ils vont s'améliorer, bien évidemment, pour produire une information cette fois fiable la prochaine fois, puisque la première n'était pas complètement fiable, et qu'ils vont de toute façon continuer. Alors, ils ont un double problème, c'est que comment collecter l'information ? Ça, c'est, il faut une masse d'informations considérable. Et les journalistes de Science et Avenir avaient fait ça de façon très rudimentaire la première fois, mais là, ils sont obligés, en quelque sorte, d'arriver à une chose précise. Et ce qu'ils vont faire, ce qui est une attitude normale, ils vont se tourner vers le ministère et l'assistance publique à Paris qui gère les hôpitaux. D'accord ? Eux, ils ont l'information. Et donc, c'est en négociation avec les gestionnaires centraux des structures hospitalières que vont faire la négociation. Mais évidemment, nous sommes au milieu des années 90. On peut supposer que l'idée de Science et Avenir, elle n'est pas indépendante du contexte dans lequel ça se passe. Et c'est l'époque où le gouvernement a demandé aux hôpitaux, à l'assistance publique, de réformer entièrement le système des hôpitaux pour le rendre un peu plus performant, rentable, enfin vous mettez les adjectifs que vous connaissez, et à mobiliser les managers du New Public Management. D'accord ? Donc le résultat, c'est que... le résultat, si vous voulez, c'est que le résultat, c'est que les éditions suivantes sont de plus en plus sophistiquées en termes de données. Elles sont de plus en plus cadrées en termes d'objectifs, puisque tous les critères qui sont fabriqués, qui sont utilisés, visent à organiser la réforme des hôpitaux dans le sens prévu par le gouvernement. Et progressivement, se met en place cette liste. Et là, ce qu'on voit, et c'est très important, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que le palmarès publié année après année commence à fabriquer effectivement l'idée qu'il y a de mauvais hôpitaux et de bons hôpitaux, d'accord ? Que donc il est préférable d'aller dans les bons hôpitaux et pas dans les mauvais hôpitaux, d'accord ? Donc chaque hôpital doit essayer de combattre sa place dans le palmarès lorsqu'il est mauvais, parce que sinon... il va avoir des difficultés, il va y avoir moins de clients, enfin, parce que maintenant, ils s'appellent des clients, vous n'êtes plus malade, vous êtes client. Donc, il va y avoir moins de clients. Si vous avez moins de clients, vous allez recevoir moins de crédits, vous allez... Bon, et vous entrez dans une spirale négative. Donc, chacun va devoir s'adapter pour faire augmenter sa position dans le palmarès. Et donc, agir, pas sur le bien de l'hôpital en général, mais sur les critères. Ce que vous faites tous en publiant vos indices, etc. C'est-à-dire qu'il faut que vos critères, c'est-à-dire ce qui constitue l'information sur l'hôpital, progressent. Et le résultat, et donc on le comprend bien, c'est que chacun des acteurs individuels, le médecin, le gestionnaire de l'hôpital, etc., se met à agir conformément à la métrique pour pouvoir monter dans le palmarès et en conséquence met lui-même en œuvre ce qui lui a été demandé ou ce qu'on souhaitait qu'il fasse. Donc c'est un phénomène de cet ordre auquel nous assistons. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? D'abord que si je le mettais dans une perspective historique un peu plus longue, il y a une irrésistible ascension des palmarès dans ce monde de gouvernement libéral puisqu'il y a toujours des acteurs qui sont intéressés à les produire, à les vendre, à les utiliser. D'accord ? Il y a une dynamique propre de l'espace public. Ça, c'est extrêmement... Alors, l'espace public, il est tout relatif. Pour vous, ça peut être un espace, l'espace académique, on va dire. Mais là, c'est bien l'espace public. C'est-à-dire, c'est parce que dans cet espace, la diffusion, la circulation, se fait que le palmarès benchmark devient la norme, et plus il se diffuse, plus il est utilisé, et plus il est évidemment la norme. Et ça, c'est une dynamique propre que personne ne contrôle. C'est en ça que c'est libéral, si vous voulez. Il est très difficile, troisième remarque, pour les individus, les institutions, etc., d'échapper au benchmark et au palmarès, parce que c'est suicidaire de ne pas en tenir compte. D'accord ? Toute la théorie de la transparence, on pourrait y revenir si on veut, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et puis, donc, c'est intéressant parce que si on l'analysait en termes des grandes séparations qui font la liberté des modernes, comme disait Benjamin Constant en 1819 ou quelque chose comme ça, toutes ces grandes séparations qui ont constitué l'espace public démocratique sont en voie de disparition. Elles se fondent les unes dans les autres. D'accord ? Donc, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, on a le droit d'y réfléchir. Alors ça, c'était la première partie de ce que je voulais dire. La deuxième partie, ce que je voudrais faire maintenant, c'est un peu différent, c'est comment poursuivre et mener le travail critique de démontage, puisque je pense que nous sommes là, nous sommes dans un exercice aujourd'hui de qu'est-ce que c'est ce machin, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en dire, comment on en juge, qu'est-ce qu'on est prêt à garder, à rejeter, etc. Donc on peut le faire comme je viens de le faire dans mon exemple précédent, c'est-à-dire regarder comment se met en place le système et comment il fonctionne, mais on peut faire d'autres choses. C'est-à-dire que, je dirais, ce système repose très largement sur un autre usage de la langue. Le poids des mots est beaucoup plus important dans un système libéral que dans un système autoritaire. Il est, puisque vous induisez, c'est comme disait Foucault, c'est la conduite des conduites. Vous devez conduire les gens à se conduire d'une certaine façon. Vous allez donc mobiliser leur subjectivité, mobiliser leur désir, mobiliser leur sens du devoir, tout ce que vous voulez. Et donc, ce faisant, d'accord, les mots par lesquels vous allez parler, c'est pour ça qu'au début, tous les objectifs sont des objectifs de bon sens. Il faut que ce soit évident. Évidemment que vous voulez le faire. Vous ne pouvez pas argumenter contre. C'est extrêmement important. Donc, l'usage des mots est absolument majeur. Et je crois qu'on a vraiment de nouveaux univers sémantiques et grammaticaux qui sont extrêmement intéressants. Donc, je pense, Rist, c'est un anthropologue de Genève qui a beaucoup écrit sur ces questions et qui a écrit des choses très intéressantes. Et moi-même, je viens de publier avec Franco Moretti, qui est prof de littérature à Stanford, nous avons publié une première étude sur la grammaire de la Banque mondiale. Donc, vous pouvez, si vous voulez, regarder. Je pense que c'est relativement neuf ce que nous avons fait là. Mais donc, ce sur quoi je veux insister ici, c'est le poids des mots qui font qu'il y a une évidence des catégories de base avec lesquelles nous devons travailler. Évaluation, excellence, gouvernance, la société civile, bien sûr. Tout ça sont à la fois des normes, des facteurs descriptifs, et c'est mélangé. Ils sont le vocabulaire que vous devez utiliser. Ils sont un choix, une norme. Et c'est ça qu'il faut arriver à ouvrir. Donc, il y a un travail à faire sur la langue. On peut le faire en termes sémantiques, grammaticaux, on peut le faire en termes rhétoriques, ce qui est plus classique. Mais c'est un travail qu'on ne peut pas oublier. C'est vraiment très, très important. L'autre manière autour de cette affaire du vocabulaire que je proposerai, c'est ce que je vais présenter en quelques minutes maintenant, une autre stratégie. C'est celle que je vais adopter aujourd'hui à titre d'exercice. C'est simplement, je propose deux exercices, deux outils, mais il y en aurait plein d'autres, pour nous apprendre à réfléchir et à faire sens de ce qui nous advient. C'est faire une généalogie. Alors, je prends généalogie dans un sens foucauldien, à nouveau, tel que Foucault l'avait défini. On pourrait dire, c'est faire une généalogie, c'est raconter comment une notion, un concept, un dispositif, un outil, tout ce que vous voulez, ça peut être évaluation, ça peut être le H-index, ça peut être tout ce que vous voulez, comment, historiquement, par quelle force il a été mis en place et est devenu évident, devient incontournable. Vous ne pouvez plus penser sans lui. Il passe d'un statut où il n'est pas une catégorie intéressante, à un moment donné, vous ne pouvez pas ne pas le prendre en compte comme une catégorie centrale. Et il se met à structurer votre action. Donc c'est ça, écrire une généalogie, c'est raconter comment quelque chose en vient à être évident et, ce faisant, efface la contingence de sa construction. Vous voyez ? Quelque chose de cet ordre. En fait, je vais le faire sur société civile. Je voulais en prendre une. Je n'ai pas voulu prendre évaluation, etc., parce que c'est sûrement plus spécialiste que moi. J'aurais pu prendre excellence, il y a beaucoup de travaux dessus, etc., mais une autre catégorie, société civile. Donc la première chose que je dirais avec société civile, c'est que c'est une notion aujourd'hui évidente. C'est-à-dire qu'il y a bien de la société civile, il y en a plein. Vous l'utilisez, je suis sûr que la majorité d'entre vous utilisez la notion, sauf peut-être Yves, mais les autres emploient société civile largement. Il y a la société civile, elle existe, c'est un fait, d'accord ? Alors on peut tout de suite commencer, alors je ne dis pas que ça n'existe pas moi. Je dis, évidemment, c'est une caractérisation particulière. On peut parler comme ça, on pourrait parler autrement. Et je vous fais remarquer qu'il y a 40 ans, on ne parlait pas comme ça. Il n'y avait pas de société civile. Il n'y en avait pas. On parlait autrement. D'accord ? Je vous rappelle que si vous vous mettez en 1820, il y avait de la société civile. Tocqueville n'arrête pas de parler de la société civile. Mais si vous vous mettez en 1870, il n'y a plus de société civile. Je veux dire, le jeu des catégories change. Donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi maintenant... Il est très difficile de faire l'économie, lorsqu'on pense un problème quelconque, de la société civile. D'accord ? Alors, j'en fais une généalogie rapide pour vous montrer en quoi consiste l'exercice et pourquoi il est intéressant. Où est-ce que ça commence l'émergence du vocable de société civile ? Il y a deux endroits où ça commence à émerger. Je dirais, c'est l'Europe de l'Est et l'Amérique latine dans les années... Alors, fin 60 déjà en Amérique latine, principalement 70, et ensuite 80, dans l'Europe de l'Est. D'accord ? Bon, alors du côté de l'Europe de l'Est, les vocabulaires qui sont associés, c'est la dissidence. La société civile est dissidente. D'accord ? C'est une société qui ne demande pas le pouvoir, mais qui se constitue contre le pouvoir en passivité, en résistance passive. D'accord ? Et qui revendique des droits. Hein, vous pensez à... l'Allemagne de l'Est, la Pologne, etc., Solidarność, bon, voilà. Pour l'Amérique latine, nous sommes dans des phases de dictature, et de la même façon, la société civile, c'est celle qui se dresse contre la dictature. D'accord ? Et elle promeut... alors, l'Église est extrêmement centrale, que ce soit en Europe de l'Est ou que ce soit en Amérique latine, elle est l'un des ferments de l'émergence de la société civile. C'est ni bien ni mal, je vous le décris, hein, je ne suis pas en train de juger de cette affaire. D'accord ? Et là, vous avez l'idée des communautés de base et de la rhétorique des droits. D'accord ? Bien. Je vous rappelle que le grand texte de Rawls, c'est 71. Hein, c'est une chose. Alors, dans les années 70, il y a d'autres endroits dans lesquels commence à émerger, cette fois, chez nous, je dirais, pas dans les mondes... communistes et du Sud, commence à émerger d'autres usages, mais le même vocabulaire émerge. C'est d'abord les think tanks libéraux. Je vous rappelle que... Et les ONG. En fait, c'est intéressant parce que les deux processus sont simultanés. Je vous rappelle qu'en 71, c'est Greenpeace, est créé en 71, mais c'est aussi la date où est créé Enterprise, est créé tous ces grands think tanks datent de ce moment-là. Donc 71 est une date très... on peut vraiment élaborer beaucoup là-dessus. Et là, ce que vous avez, c'est une autre thématique. Ce n'est pas la dissidence, c'est l'individu contre l'État. Alors, chez les think tanks libéraux, c'est extrêmement net. Il faut abolir l'État-providence, il faut fermer cette parenthèse, il faut faire une société néo-libérale, libérale. Revenir au vrai libéralisme, dans lequel s'inscrivent les dispositifs dont nous parlons. Du côté des ONG, on lit société civile et environnement contre les mondes industriels et les États passifs. En gros, c'est ça. Mais il n'y a pas que cela. Hein. Vous avez les mouvements féministes et de femmes dans les années 70-80 qui emploient aussi le vocabulaire, avec le sida, les associations de patients. Les associations de patients, c'est plus tardif. Il y a toute une histoire, mais l'idée de force, c'est nous nous prendrons en main et nous ferons nous-mêmes. D'accord ? Et vous voyez que c'est pas une critique. Vous comprenez que je mets à plat une chose, hein, rien d'autre. Ensuite, il y a un troisième groupe, un troisième temps, peut-être, c'est pas vraiment une origine séparée, c'est un troisième temps ici, c'est la reconnaissance par le monde des affaires et le monde politique à la fin des années 80, mais pas avant, que l'environnement est finalement une question qu'on ne peut pas éviter. et que donc il va falloir se saisir de cette question. C'est l'expression que vous avez chez les publicistes. Combien il me reste, parce que je vois que tu es inquiet. Oh oui, ça va, pas de problème. Bon, vous le voyez chez les publicistes, c'est chez ceux qui conseillent les entreprises, ceux qui fabriquent les images de marque, etc. Et leur expression qui commence vers 86, 87, 88, je vous rappelle que tout ça, vous n'oubliez pas que le rapport Brundtland, il date de 87, que Rio est en 92. Enfin, voilà. Dans ce temps-là, ce qui est conseillé, même au Parti républicain, la campagne de Bush père de 88 est construite sur ça. We now are all green and participative. D'accord ? On est environnementaliste et société civile. D'accord ? Voilà. Et ça, en contraste avec la période Reagan. On peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on voit, si vous prenez la création de ce qui s'appelle le World Business Council for Sustainable Development, qui est créé sous un nom un tout petit peu différent en 90, sous l'impulsion de Maurice Strong, qui dirige le processus onusien de Rio, et de son bras droit, qui s'appelle Schmid-Heine, qui est un des plus gros industriels suisses, un des plus grands fabricants d'amiante et un des plus grands fabricants de ciment, qui vient de fusionner avec Lafarge. Enfin, gros, gros business. Okay ? Eh bien, il développe très explicitement la thèse que, puisque le monde des affaires, dorénavant, est en position de diriger vraiment le monde. Nous sommes en 89-90. L'URSS s'est effondré. Le consensus de Washington, comme on dit, dans ces milieux-là, est maintenant acquis. Ça fait 10 ans que la Banque mondiale applique les plans au Sud d'ajustement structurel, etc. Nous sommes dorénavant en position de diriger le monde. La phase de globalisation commence à monter en vive allure. Eh bien... nous avons la responsabilité de la planète. Et c'est à nous, société civile, les entreprises sont la société civile, c'est à nous, société civile, de nous allier avec cette autre partie de la société civile que sont les mouvements ONG, etc., etc., environnementales, et ensemble de construire le futur. D'accord ? Donc, à ce moment-là, société civile se met, et ça devient, alors là, c'est là où le moment, le terme explose et se... devient extrêmement ambigu, reste ambigu, mais il est d'usage absolument courant. Quand vous lisez la Banque mondiale, eh bien, vous tapez, c'est ce que nous avons fait, vous repérez en sémantique quand est-ce qu'apparaît civil, et j'aurais dû, d'ailleurs, j'ai les courbes dans mon ordinateur, vous voyez toutes les courbes qui commencent à monter à ce moment-là. Bon, alors là, on pourrait parler de tout ça, mais ça va être un peu trop long. Je vais passer... Donc, d'où l'évidence, si vous voulez, que la société civile existe, elle est là, et il y a des gens qui parlent en son nom, d'accord ? Les sens sont évidemment complètement variables, ça c'est évident. Il y a une évidence pour beaucoup d'acteurs d'être part à la société civile, ils sont des acteurs de la société civile, d'accord ? Et évidemment, suivant qui vous regardez, eh bien, ça concerne les entreprises, les églises. Il y a toute une série de discours très, très nets dans les années 90 sur les églises se définissant comme société civile, les associations, la Banque mondiale, évidemment. Donc, un nouvel ordre du monde qui inclut à la fin ceux qui gèrent et ceux qui contestent. D'accord ? Bien, alors évidemment, il y a une nature très ambiguë, mal définie, mais vous pourriez faire, évidemment, maintenant, si vous voulez, c'est ça l'exercice que vous devrez faire ce soir, je reçois les copies au début de semaine prochaine, vous le faites pour développement durable, modernisation écologique, gouvernance, transparence, participation, technologie verte, et évidemment, évaluation et excellence. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours se demander qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que ça efface, d'accord ? Puisque ce sont des constructions sociales, hein, on parle comme ça. Donc, ça efface certaines questions. Par exemple, les différences sociales dans la société civile n'existent plus. La société civile est une. Elle est en action. D'accord ? Le rapport à la temporalité n'est pas la même. Elle est en action permanente. À la Banque mondiale, ce qui est très intéressant depuis les années 90, c'est que la forme grammaticale qui domine, qui structure toutes les têtes de chapitre et qui devient la forme grammaticale la plus importante avec le présent, c'est-à-dire le présent, comme on l'emploie en français aussi, au sens du présent continu. Hein, c'est la forme en ING. Hein, building the future. Okay. Vous voyez, ce genre d'expression. Et donc, le... Ah, je fais annuler. Je vois que vous avez tous regardé en l'air, là, je me suis dit que... donc voilà, c'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport à la factualité, par exemple. Ça aussi, nous avons documenté ça sur le cas de la Banque mondiale. Le passé, les formes passées qui disent des choses advenues, par rapport auxquelles on avance, tendent à se réduire. D'accord ? La mise en place d'une temporalité dans ces langues tend à disparaître. C'est-à-dire, nous sommes dans un présent continu toujours déjà en train d'advenir. Ce qui permet de ne jamais repasser en revue ce qu'on a fait et pas fait, et les effets de ce qu'on a fait et pas fait. D'accord ? Donc, à la Banque mondiale, c'était extrêmement frappant. Je disais hier soir, si vous prenez les adverbes de temps à la Banque mondiale, eh bien, entre 45-46, date de la création de la banque, à 2012, la date à laquelle on a arrêté de traiter des rapports, les adverbes qui marquent le temps, la temporalité déjà, autrefois, etc., diminuent de 70%, ce qui est une évolution d'une rapidité démente. Aucune langue naturelle n'évolue à cette vitesse. Une langue naturelle, ça évolue de 1 ou 2% par décennie. Ça n'évolue pas de 70% sur quatre décennies. Donc on sent bien que c'est quelque chose de plus profond qui s'est fait là. Et voilà, je n'ai pas dû dépasser l'heure. On va en rester là. C'était donc simplement mettre ce que nous allons faire aujourd'hui dans des contextes un peu plus larges et vous donner des pistes pouvant permettre de penser les phénomènes auxquels nous sommes confrontés. Merci.